je suis né dans une famille d'artistes, notamment avec mon père, qui était prof de, qui était peintre de formation, qui a été prof de dessin d'art au, au lycée professionnel de Pont-de-Buy.
Et dont on connaît encore, on peut voir encore l'œuvre.
Oui, il a fait une très belle peinture murale le long de la rue des Écoles. Hein, et puis dans les écoles aussi, il a beaucoup travaillé sur des peintures murales qui représentent Pont-de-Buy notamment.
Donc vous, quand vous avez fait vos études artistiques, oui, est-ce que vous aviez déjà dans l'idée de faire la bande dessinée ou pas spécialement? C'était quoi votre idée?
Alors oui, une question intéressante parce que la BD, alors quand j'étais ado, je voulais faire de la BD, mais c'est un peu le trip de tout ado qui dessine. Et puis ça m'a passé, j'ai fait des études d'art appliqué et la BD, elle est revenue à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire que c'est assez récent, depuis les années 2014, j'ai plongé dans les BD après avoir fait tout un parcours de carnet de voyage qui a été très formateur justement pour le rapport avec l'humain, avec un paysage, le rapport avec le témoignage aussi.
C'était des carnets de voyage sur quoi? Sur où?
Alors, il y a eu des carnets de voyage personnels liés à des voyages en Asie où mon but c'était de partir dans des pays, je sais pas, le Yémen par exemple, j'ai été en Iran, des pays pas forcément faciles a priori, sur lesquels on avait des a priori négatifs côté occidentaux. Et mon idée c'était de voir les gens, de les rencontrer, de les dessiner, parce que le dessin, c'est un très beau facteur d'échange. Donc il y a eu ça, et puis j'ai été dans un collectif de carnétistes qui s'appelait les carnétistes tribulants, et on a travaillé sur des sujets plutôt sociologiques. On voulait éditer, donc on a fait des sujets, notamment le premier sujet, c'était sur la banlieue. On s'est dit, tiens, on était en 2005, au moment où il y avait des affrontements en banlieue, on s'est dit, on va réenchanter la banlieue. Parce que, certes, il y a des affrontements, mais toute la banlieue n'est pas comme ça. Et donc, on est parti un peu naïvement, simplement à la rencontre des gens en banlieue. Alors on a défini le périmètre parce que la banlieue, on sait où elle commence, on ne sait pas où elle finit. Et donc c'était la banlieue plutôt limitrophe de Paris. Et on a fait tout un carnet, on se passait le carnet de main en main, carnet relais, dans lequel c'était des rencontres humaines et des rencontres avec aussi un paysage parce que la banlieue, c'est une architecture.
Ils sont publiés, vos carnets de voyage, ou certains d'entre eux?
Oui, les publications sur les carnétistes tribulants, on a fait 5 ou 6 publications. Certaines sont épuisées, celui sur la banlieue épuisée. Mais les derniers, chez la boîte à bulles, vous avez Paysanne, qui était un carnet de rencontre avec des femmes engagées, donc les femmes qui s'engagent en agriculture, qui était un reportage. C'est entre le journalisme et le dessin, en fait. Et on allait en immersion chez ces femmes-là. Certaines éleveuses de chèvres, certaines qui faisaient de la biodynamie, etc. On vivait quelques jours avec elles, et donc à la fois la vie personnelle et la vie professionnelle, et on rendait compte de ça sous forme de texte et de dessin.
Donc même si vous dessiniez majoritairement, vous étiez aussi déjà scénariste, entre guillemets, quoi.
Tout à fait, c'était du scénario, mais quelque part, c'est vrai que ça m'a fait basculer, ou en tout cas glisser sur la narration. Parce que déjà, dans mes voyages, au fur et à mesure des voyages, je commençais à faire des petits carnets où je racontais ma petite vie personnelle, au jour le jour. Et puis, en effet, il y a eu cette rencontre avec des récits de témoignages, un récit de témoignages, notamment celui d'Alexandre Tikhomirov qui racontait sa vie d'appelé en Algérie. Et là, ça y est, j'ai foncé dans la BD, je ne me suis pas arrêté.
Mais dans la BD historique, enfin, on peut dire BD historique en fait.
Oui, même si j'aime pas trop être mis dans une case, certes, en fait, c'est une BD à fort contexte historique. J'ai plus envie de dire le témoignage, c'est-à-dire que je pars de témoignages individuels, donc petite histoire, et en effet, il y a des échos avec la grande histoire. Donc là, pour l'instant, après, je ne dis pas, peut-être que dans 10 ans, je serai sur autre chose, peut-être que je serai sur des fictions, je ne sais pas, c'est aussi le sujet qui fait l'événement. Ce qui m'intéresse, c'est en effet ce tissage, cette articulation, petite histoire, grande histoire, de manière à raconter l'histoire avec un grand H ou un petit H, mais comme une fiction. Je ne veux pas surtout faire d'ouvrage didactique. C'est pour ça que ça me gêne de dire livre historique, où on se dit, vous nous expliquez l'histoire. Certes, peut-être que je l'explique, mais par le biais d'un récit individuel, en fait.
Oui, mais vous travaillez comme un historien. Enfin, surtout là, pour le dernier, je pense que...
Ah oui, là, il y a un vrai travail de... Alors, c'est pareil, c'est une histoire d'équilibre entre un travail à la fois scientifique, d'étude, et un travail artistique. En effet, pour Auschwitz, qui est le contexte de l'histoire, l'histoire, d'abord, c'est le rapport W, c'est un récit d'espionnage dans le contexte d'Auschwitz. Donc, moi, de manière à commencer le projet, ce qui était important pour moi, c'était d'aller sur place. Donc, j'ai repris un peu mon carton à dessin et mon sac à dos de carnétiste de voyage et je suis allé sur les lieux parce qu'il était important pour moi de voir, de toucher, de sentir, de faire un vrai travail d'auteur, c'est-à-dire d'appropriation d'un lieu et en même temps de voir le lien avec l'histoire, de voir le lien avec la réalité et ça c'est le lien avec le récit écrit qui est le rapport Pilecki évidemment.
Alors, le rapport, ouais, comment vous connaissiez donc ce personnage de Pilecki ?
Alors, je l'ai rencontré par l'historienne Isabelle Davion, qui est une amie, qui est enseignante à la Sorbonne, enseignante chercheur, et qui a travaillé sur le rapport Pilecki, sur les notes historiques de ce récit qui est paru chez Champvallon en 2014. Et elle m'a proposé le livre, elle m'a dit « lis-le », je lui ai dit « d'accord ». Je l'ai lu, je l'ai trouvé passionnant, fascinant, cette mission impossible. Et je lui ai dit, oui, d'accord, mais enfin, bon, j'ai bien compris que tu veux que j'en fasse une BD, mais pas facile. Voilà, pas facile, parce qu'il faut s'approprier ce récit, il faut le faire rentrer dans un format de BD, sinon j'aurais pu en faire 32 000 pages. Hein. Il se passe tellement de choses. Donc il y a un vrai travail de scénarisation, de découpage, d'adaptation, mais qui m'intéresse, parce que là aussi, c'est une petite vie d'un homme qui a été oublié, de cet officier de l'armée polonaise, de l'armée secrète, en mission, une vraie mission d'infiltration, parce qu'il a décidé de se faire emprisonner à Auschwitz pour monter un soulèvement.
Mais, ah ouais, parce que c'était ça, c'est lui-même qui s'est donné cette mission, enfin finalement, c'est pas l'armée
Si, il a demandé à ses supérieurs de l'armée secrète, donc qu'il l'envoie en mission sous un faux nom, et parce que, alors, faut définir le contexte, et c'est là que c'est important, et c'est là qu'on est scientifique et historien, c'est qu'on est à Auschwitz, 9 septembre 1940, c'est le début du camp, c'est-à-dire c'est un camp de prisonniers politiques polonais. Hein, le camp est polonais. Les Juifs seront introduits dans le camp, emprisonnés dans le camp, à partir de 1942.
C'est pas encore un camp d'extermination.
C'est pas encore le camp d'extermination, c'est un camp de travail forcé, un camp de concentration, hein, et c'est Auschwitz 1. Le camp d'extermination de Birkenau qui est construit en fin 41 et qui va fonctionner en 42 et le camp d'extermination. Donc là, Pilecki décide d'infiltrer le camp. Pourquoi ? C'est parce qu'il il a conscience qu'il y a des cadres de l'intelligentsia polonaise, des collègues à lui, soit militaires, soit civils, et qu'il s'agit de les libérer. Et en même temps, il y a très peu d'informations sur ce camp. Il ne sait pas dans quel guépier, et le mot est moindre, il met les pieds. Hein. Il va dans le ventre du monstre, parce qu'il va suivre en fait, le glissement du camp vers l'horreur absolue.
Ah oui, parce que là, c'est quand même extrêmement risqué comme mission. Enfin, s'il avait su, il n'y serait pas allé, peut-être.
Ça, j'en sais rien. Il faudrait lui demander. Je pense que c'était quelqu'un, on le voit à travers le rapport et ce que je voulais transcrire, c'est qu'en effet, il est pris par sa mission. Il a cette obsession de réussir sa mission, qui était donc ce soulèvement en constituant un réseau, donc en constituant un réseau clandestin, en recrutant des hommes de confiance. Donc c'est un vrai travail d'espion, en faisant sortir de l'information.
Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est extrêmement ambitieux, parce que faire un soulèvement, c'est pas la même chose que fournir du renseignement.
Il y a les deux, il y a tout ça. En fait, au début, la mission, c'est le soulèvement, mais il se rend compte que ça va pas se faire à court terme, donc c'est plutôt du moyen, voire long terme. Donc évidemment, il renseigne en bon agent de renseignement, il renseigne ses supérieurs de ses missions. Les premiers rapports qu'il envoie, c'est la constitution du réseau. Qui est dans le réseau ? Quels sont les hommes qui sont dans le réseau ? Il retrouve des militaires, évidemment, il comprend que ceux-là sont de confiance. Il recrute aussi des prisonniers, on va dire lambda, des civils. Et il va monter son réseau, il va le construire, il va tisser sa toile. Et c'est intéressant parce qu'il explique le système des cellules de 5. Chaque cellule doit être autonome, des cellules de 5 à 7 hommes qui doivent être autonomes. Comme ça, s'il y en a une qui tombe, elle ne va pas dénoncer l'autre sous la torture. Donc c'est intéressant parce qu'on rentre vraiment dans la constitution de cellules de combat et dans la manière dont elles se protègent. Donc il y a ça, il construit son réseau, et ce réseau va constituer aussi un réseau d'entraide. C'est-à-dire que du coup, ça va créer un tissage d'entraide entre les prisonniers. Il va s'arranger pour que tel prisonnier un peu faible soit dans tel ou tel atelier. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Auschwitz, pour s'en sortir, il fallait intégrer un atelier de travail, ce qu'on appelait, c'était le commando. Donc, commando de menuiserie, par exemple, c'était un poste moins difficile, même si tout c'était difficile, parce qu'on était au chaud et on était mieux nourri, si je puis dire. Et donc lui, il arrive, Pilecki, après plusieurs déboires, à se faire passer pour un prisonnier, un menuisier. Hein, et c'est là toute sa capacité à rebondir et à improviser, parce qu'il fait... il fallait être manuel pour s'en sortir. Un intellectuel, il était tué sur place. Il l'explique. Hein. Les gens qui disent « je suis avocat, je suis juge », les SS les fusillaient tout de suite. Donc voilà, il y a ce côté, en effet, débrouille avec peu de moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas un James Bond, ce n'est pas les gadgets et les belles filles. C'est au contraire, il part avec rien. Il part avec simplement une fausse carte d'identité.
Et pourtant, il est tombé dans l'oubli, vous disiez ?
Oui, alors il est tombé dans l'oubli. Alors là, c'est un autre pan de son histoire qui n'est pas lié au rapport Pilecki, qui est lié à sa biographie. C'est-à-dire qu'après la guerre en 1945, vous le savez tous, la Pologne est sous le joug soviétique, le gouvernement est communiste. Le gouvernement provisoire qui était resté à Londres ne rentre pas du coup en Pologne. Et lui, il reste fidèle à ce gouvernement provisoire. Et le gouvernement provisoire lui ordonne de monter un nouveau réseau de résistance contre le gouvernement communiste. Sauf que là, il a les services secrets soviétiques derrière lui. Et les soviétiques ont bien compris qu'il fallait avoir la peau justement de tous ces résistants polonais parce que c'était des vrais patriotes. Et donc, voilà, il se fait en effet emprisonner, arrêté. Il y a un an de jugement, de torture, de jugement, procès stalinien, il est exécuté.
Et grâce à son travail, de France, on a l'impression qu'on n'avait aucun renseignement, aucune information sur les camps de concentration, d'extermination. Or, finalement, on se rend compte que si, il y avait des renseignements qui sortaient grâce à des gens comme ça.
Grâce à Pilecki, grâce aussi à Karski, autre héros polonais, militaire. Donc les Polonais ont vraiment une action de résistance extrêmement forte pendant la guerre. On n'a pas assez parlé, je pense qu'il faut le dire. Karski a été même jusqu'aux États-Unis, hein, essayer de convaincre Roosevelt, mais il n'a pas réussi, donc vous vous rendez compte. Et en effet, Pilecki avec ses rapports, puisque Pilecki reste à Auschwitz jusqu'en avril 1942, donc il le dit bien, 1942 c'est l'année la plus terrible. C'est-à-dire que c'est là où il voit en effet l'extermination des Juifs, l'extermination des Polonais et des Tziganes, hein, et donc les chambres à gaz qui se mettent en place. Il voit en amont aussi l'expérimentation des chambres à gaz sur les prisonniers soviétiques, les premiers prisonniers soviétiques. Donc il décrit tout ça. Donc les Alliés avaient en tout cas tous les renseignements. Ça s'est pas fait. Là, je suis mal placé pour juger, évidemment. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas eu ce qu'il attendait Pilecki, parce que son soulèvement était prêt. Il avait constitué ses cellules de combat. Tout était hiérarchisé en bon officier. Et il savait très bien que c'était voué au suicide. Il pouvait faire des dégâts, mais ça ne réussirait pas parce qu'il y aurait la contre-attaque allemande. Donc, il fallait du parachutage. En tout cas, il fallait une aide matérielle derrière, quoi.
Et donc, ça faisait combien de résistants polonais infiltrés, du coup, dans les camps, à peu près, enfin...
Alors, là, pour le coup, ce n'est pas des Polonais infiltrés, c'est-à-dire c'est plutôt des résistants... parce qu'infiltré, c'est quelqu'un qui va volontairement dans le camp. Oui, ils étaient, je crois, au total, en gros, 800. Hein. Il y avait plusieurs groupes de résistance. Il y avait même une rivalité entre les groupes de résistance. Ce que je montre dans la BD, parce qu'il l'explique, Pilecki, puis après j'ai entrecoupé avec d'autres récits, parce que mon travail s'est appuyé aussi sur d'autres textes d'historiens et de chercheurs, parce que Pilecki utilise notamment des numéros, capitaine 17, lieutenant 21, compagnon 32, parce qu'il veut les protéger au moment où il écrit le rapport en 1945. Et j'ai retrouvé des textes où on nomme tel ou tel capitaine ou tel lieutenant. Pour moi, les noms qui sont mis, c'est les vrais noms. Et à un moment, je me suis amusé, entre guillemets, à jouer sur finalement la confusion sur, entre les pseudonymes qu'ils utilisent, les numéros qu'ils ont. Ils savent plus qui. Donc voilà, il y a aussi un peu d'humour, un peu de distance par rapport à toute cette mission.
Et ça m'amène justement au traitement graphique qui est quand même particulier aussi, parce que pour pas que ça soit trop plombant, j'imagine.
Donc, oui. Alors, je voulais surtout pas tomber dans le mortifère. Je me suis appuyé sur une de ses phrases. À un moment, il dit, Pilecki, j'avais l'impression d'être dans un mauvais rêve. Et je me suis dit, voilà, je vais travailler sur une tonalité irréelle, onirique, cauchemardesque. Et j'ai joué en effet sur les bleus et les rouges. Et les couleurs sont en non-caca, comment dire, naturalistes. Elles sont là pour exprimer des sentiments. Donc ça peut être un sentiment d'angoisse, mais ça peut être aussi un sentiment d'apaisement, de plénitude, parce qu'il y a aussi des rêves. Je fais des échappées du camp par les souvenirs, par des rêves de Pilecki. Je me suis mis dans sa peau. Pour moi, un prisonnier, il s'en sort aussi par le psychologique. Donc il était important pour moi d'essayer de m'immiscer dans sa tête, de voir ce qu'il pensait, de montrer ses doutes aussi. Hein. C'est pas le héros bodybuildé, je vous dis, c'est pas le James Bond sûr de lui. Il avait aussi des doutes, il avait des questions. Et le récit, par le moyen de la BD et par la couleur, c'est de rendre cette sensibilité-là, en tout cas.
Vous avez quand même même avoir un mental d'acier. Exactement. Bah ouais. Ouais, c'est un peu fou. Hein. Et donc aujourd'hui, vous me parliez de la façon dont il le risque d'être récupéré. Enfin, c'est en Pologne. Comment est-ce qu'il est vu maintenant? Parce qu'en plus, votre BD a eu beaucoup de succès. Enfin, elle a eu un prix Goncourt, et l'équivalent, on va dire.
Oui, elle a eu l'équivalent d'un grand prix d'histoire, un concours d'histoire, le prix spécial. Et ce qui est assez exceptionnel de donner déjà une BD. Et en plus, qui était en français, elle n'est pas encore traduite. Donc, elle va être traduite par un éditeur polonais, elle va être aussi traduite en allemand. Vraisemblablement, ce n'est pas encore sûr, mais il y a de fortes chances. Donc ça, je suis très content, parce que c'est un devoir de mémoire, de transmission qui se fait sur toute l'Europe. Et puis, alors sinon, pour la situation politique, on a été très bien. Alors, je dis on, parce que j'y suis allé avec ma conseillère historique, Isabelle Davion, pour le deuxième voyage. On a été accueillis au musée de l'armée, l'armée de l'intérieur. Ils ont beaucoup de musées de la guerre à Cracovie. On a été reçus par le directeur. Très bien reçu, qui nous a sorti des documents. Donc, Pilecki a une vitrine, c'est un héros. En même temps, voilà, je sais qu'en Pologne, il y a des débats. Alors, vu de loin, hein, moi, je ne suis pas en Pologne, vu de loin, il y a des débats sur la récupération par, justement, le parti nationaliste. Or, lui, il n'était pas nationaliste. Hein, c'était peut-être l'équivalent d'un gaulliste à l'époque.
Et quels sont vos autres projets, si vous en avez maintenant, ou est-ce que c'est trop tôt?
Si, je peux en parler, parce que ça a été signé. Alors, je vais partir dans les forêts, je vais partir dans les Vosges, dans les montagnes, je vais partir en quête des grands cerfs, avec l'adaptation du roman Les grands cerfs de Claudie Huzinger, qui est sorti chez Grasset en septembre, et qui a eu le prix décembre, récemment. Et donc, j'ai été en immersion, donc j'ai fait comme pour Auschwitz, c'est-à-dire que là, j'en reviens. D'ailleurs, je suis parti une semaine en immersion dans sa vallée, au fin fond des Vosges, dessiné dans la forêt, sur les traces des renards, des cerfs, etc. Donc, ça va être un récit à une portée environnementale.